Chapitre 20.
Haute fenêtre donnant sur une cour vide, pigeons roucoulant dans le silence entre deux cloches lointaines. Depuis plus d'une heure, on nous fait patienter dans une salle glacée. Le psychiatre s'enrhume dans son magazine. L'attaché de presse me répète avec de moins en moins de conviction comment je dois me conduire en face de qui et ce que je dois répondre. Le coach travaille par intermittence ma respiration, mes chakras, mon aura. L'évêque, livide et crispé, serre les mollets sur la mallette qui renferme pour lui l'argument décisif, la lettre de recommandation du père abbé de Saint-Gilles, attestant ma piété, mon dévouement, l'héroïcité de mes vertus et la qualité de ma voix. Je n'aime pas Rome. Du soleil sale, des gaz d'échappement, du bruit, des ruines, des filles en scooter. Je déteste ce Vatican plein de morgue et de mystère, de soutane à murmures et de regards en coin. Je n'aurais pas dû quitter l'abbaye. À quoi bon mariner entre ces dorures, ces peintures et ces marbres qui se moquent de la misère du monde? À quoi bon tuer le temps sous ce plafond à caissons pour aller dire à une bande de fossiles rouges et violets tout le mal que je pense d'eux? Ils attendent un candidat, un postulant dans ses petits souliers. Ils tomberont sur un rebelle sûr de son droit qui les virera de la maison de son père à coups de pompe. Mes accompagnateurs ne se doutent de rien. Ils n'ont ressenti ni la force nouvelle de ma foi, ni mon état d'esprit. Ils peaufinent leurs rondes jambes, tout en ruminant l'humiliation de faire antichambre. Mais, au fil des minutes, la violence m'est tombée des mains. Est-ce vraiment utile de jouer au justicier infantile pour finir expulsé entre deux gardes suisses? Les marchands de religion sont chez eux dans leur temple. Ce n'est pas en me dressant contre l'Église que je pourrais faire quelque chose pour elle. Je vais tenter d'être malin, puisque j'ai accepté de venir. C'était si bon, ces 10 jours dans une vraie communauté. C'était si bon de partager une foi sincère, la gratuité des sentiments, la rudesse du travail, la pauvreté de ces reclus volontaires plus heureux que tous les nantis que j'ai pu côtoyer quand j'étais un homme libre. À leur contact, je me suis nettoyé de ces mois de formation spirituelle qui m'ont compliqué Dieu, qui m'ont coupé du monde et des réalités bien plus que leurs règles monacales. Levé à 5 heures du matin pour les laudes, je nettoyais les tables, je trayais les vaches, je retournais à la chapelle chanter la tierce, puis je rejoignais les vendangeurs. Le poids des tâches manuelles, associé à l'incroyable légèreté qu'éveillaient en moi les vibrations du grégorien, parvenait de temps en temps à diminuer l'horreur que je m'inspire. Sous le couvert d'un labeur sans répit, j'ai passé 10 jours à l'intérieur d'un quart d'heure. Le temps qui sépare l'instant où Tiane est sortie du coma de celui où elle est entrée dans la mort. Ce sas qui s'est ouvert grâce à moi et par ma faute. Ce visage d'enfant émerveillé du miracle, cette émotion trop puissante qui l'a tué. Si je n'avais pas forcé la nature pour tester mon pouvoir, elle serait peut-être remontée du coma toute seule. La médecine aurait peut-être eu raison de sa maladie et elle serait peut-être encore de ce monde. La somme de ces « peut-être » est sans effet sur ma culpabilité. C'est l'intention qui compte. J'ai voulu sauver une vie en faisant valoir mes droits, en pliant Dieu à mes désirs, et je l'ai perdue parce que j'ai agi par intérêt personnel plus que par amour. J'avais besoin d'une preuve. Tiane se trouvait là, je me suis servi, et elle est morte. Il faut vivre avec ça. Expier, ce n'est pas se délivrer d'une faute par la pénitence, c'est l'assumer, l'apprivoiser, la mener à terme. C'est une grossesse de l'âme. Je ne sais pas encore ce que je ferai naître, mais j'irai jusqu'au bout, même si personne ne me comprend. Je m'étais confessé dès le premier jour. Le père abbé m'avait absous, avec un discours traditionnel sur la rédemption qui se terminait par l'assurance que Dieu reconnaîtrait les siens. C'est bien le problème. 8 jours plus tard, après qu'il m'avait regardé vivre à ses côtés, qu'on avait partagé les prières, les travaux, les repas et chanté d'une seule voix, je lui ai demandé dans le secret du confessionnal, s'il croyait en son âme et conscience que j'étais un messie. Entendez-vous l'Esprit Saint parler en vous, Jimmy ? Non. Alors laissez le pape décider. Lui seul peut reconnaître le signe de Dieu. Parce que l'Église est l'épouse du Christ et qu'il en est le chaperon ? Parce qu'il est infaillible ? Je n'ai pas voulu discuter avec lui de ce point du dogme. Ils ont si bien su me faire comprendre, en quelques jours de fraternité, de chorale et de vendange tardive, que la foi n'est pas une question de culture, que tout ce que je connais des religions humaines ne pèse rien devant Dieu. Mais l'infaillibilité du pape, quand même, je rigole. C'est le successeur de Saint-Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois de peur d'être arrêté avec lui. Et c'est pourquoi Jésus l'avait choisi, en connaissance de cause. L'Église ne pouvait se construire sans un minimum de prudence, de diplomatie et de souplesse.